Chapitre 31.
Et toi, t'es d'une espèce qui n'aurait jamais dû exister.
Ils sont 280 garçons, humains et hybrides, dans le vestiaire de la salle de sport des Halles. Ils sont à l'opposé du vestiaire des filles où se trouve Ophélie. Et loin aussi de celui des adultes censés les surveiller.
Tu peux répéter ça pour voir ?
Dit un petit brun à l'air déterminé.
Ton peuple est un peuple maudit. Vous, les Arméniens, vous nous avez volé notre terre sacrée du Haut-Karabakh.
Répète l'autre garçon aux cheveux bruns lui aussi.
C'est le contraire. Et puis, vous, les Turcs, vous avez massacré plus d'un million des nôtres sans qu'ils puissent se défendre. Menteur, vous, les Arméniens, vous faites courir cette légende pour qu'on vous plaigne. Mais à la même époque, beaucoup d'Arméniens ont massacré des Turcs et de ça, personne ne parle.
S'énerve le premier.
Un million de civils assassinés, c'est un vrai génocide et nous n'avions même pas d'armes.
Réplique le second. Les deux garçons, torse nu, se font face, tandis que d'autres viennent se placer du côté de l'un ou de l'autre.
C'est vrai ce qu'il dit ?
Demande un enfant qui semble ne pas savoir de quoi il retourne.
Évidemment, les Arméniens ont péri dans l'indifférence la plus totale de 1915 à 1923. Personne n'est venu nous aider à arrêter tous ces tueurs turcs.
C'est une légende construite de toutes pièces pour votre propagande,
siffle le garçon turc entre ses dents.
Vous, les Turcs, vous êtes des gens violents qui ne vous exprimez que par les massacres. Tuez, vous avez ça dans le sang. Et après, vous réécrivez l'histoire à votre convenance pour ne pas vous sentir coupable.
Accuse l'Arménien. L'adolescent d'origine turque ferme les poings, prêt à frapper.
Ose répéter que nous sommes violents,
dit-il. D'autres enfants les rejoignent. Deux groupes se forment. Un derrière le Turc et l'autre derrière l'Arménien. Un nautique s'interpose. C'est Poséidon. D'une taille supérieure à celle des jeunes humains, il impose le respect.
Mais de quoi parlez-vous ? Nous n'avons appris cette histoire de massacre en Arménie dans aucun des cours de mer.
C'est mon père qui m'a raconté tout ça, et il le tenait lui-même cette histoire de mon grand-père,
dit le jeune garçon arménien.
Moi aussi, c'est mon père qui m'en a parlé et il m'a averti que cet énorme mensonge permettait aux Arméniens de donner une mauvaise image des Turcs. C'est la vérité, mon père me l'a dit,
renchérit l'Arménien.
Et moi, mon père m'a dit que c'était une totale invention pour vous faire passer pour des victimes et que le monde s'apitoie.
Les deux groupes se défient. Poséidon prend la parole.
Arrêtez, tous les deux. Vous vous rendez compte de ce que vous faites ? Vous vous disputez pour des histoires du passé. Et vous êtes prêt à vous battre pour ça ? C'est stupide !
Dois-je vous rappeler qu'une guerre mondiale a probablement éliminé les trois quarts de l'humanité en surface ? Là, nous parlons non pas de millions, mais de milliards de victimes. Et vous, vous êtes des survivants. Alors, arrêtez vos chamailleries et faites la paix. Je vous propose de vous serrer la main et de ne plus parler de conflits qui se sont produits il y a longtemps et qui ne concernent que vos ancêtres.
C'est facile pour toi de dire ça. T'as pas d'ancêtres ?
Dit un garçon qui se trouve du côté arménien. Poséidon secoue la tête et répond.
En effet, je n'ai pas d'ancêtres. J'arrive dans ce monde tout neuf, sans ce sac à dos rempli de lourdes pierres que sont les douleurs du passé.
Regardez-vous, les sapiens. Vous êtes tous des descendants de victimes ou de bourreaux, et cet héritage vous empêche de vous considérer comme frères. La remarque, venant d'un être non humain du même âge qu'eux, participe au trouble général des jeunes gens présents. D'autres nautiques décident de s'interposer et d'aider Poséidon dans sa démarche de pacification. Puis, de jeunes garçons d'Igers et Aerials viennent eux aussi en renfort pour séparer les belligérants.
Il a raison. Nous non plus, nous n'avons pas d'ancêtres et donc aucune vieille rancœur qui fermente dans nos esprits,
déclare Hermès.
Amis humains, cessez de vous connecter à ce passé douloureux et regardez devant vous.
Cependant, les groupes de chaque côté augmentent au fur et à mesure que la situation s'éternise.
L'hostilité entre cet Arménien et moi est révélatrice d'un autre problème bien plus vaste. Un problème que vous, les chimères, vous ne pouvez pas comprendre,
précise le garçon turc.
Tiens donc, et lequel ?
Demande l'hybride à la peau bleutée.
La religion,
énonce fièrement un Turc.
Vous, les chimères, vous êtes des mécréants, vous n'avez même pas de foi. Les Arméniens sont chrétiens et nous, les Turcs, sommes musulmans. Et même si la guerre est terminée, nous naissons avec notre religion, qui nous est enseignée et transmise par nos parents.
Beaucoup d'autres garçons humains approuvent.
Et nous ne comptons pas renoncer à notre foi,
affirme le jeune Turc.
Nous non plus,
dit le jeune Arménien.
Attendez, attendez,
intervient Hadès.
Vous voulez dire que vous voulez vous battre pour des histoires de guerre, de religion qui datent d'un siècle ?
Pas d'un siècle. La civilisation arménienne est apparue en 2500 avant Jésus-Christ, donc il y a des milliers d'années. Et nous, les Turcs, nous existions probablement bien avant. Nous avons reçu la révélation du prophète et nous nous sommes convertis en l'an 1000. Eux ne sont que des infidèles.
Non, c'est vous, les infidèles,
répond le jeune Arménien en bombant le torse.
Mort aux infidèles !
Crie alors le jeune Turc. Il brandit un tournevis que lui a discrètement glissé dans la main un autre enfant, contourne Poséidon et donne un grand coup au ventre de l'Arménien avant que celui-ci ait pu réagir. C'est le signal. Aussitôt, les deux groupes d'enfants, qui pour la plupart n'ont même pas fini de se rhabiller, se mettent à se frapper les uns les autres. Les deux camps scandent le même slogan « Mort aux infidèles ». Hermès, Poséidon et Hadès, ainsi que les quelques hybrides, lancent des appels au calme. Ils sont rapidement dépassés par le nombre de sapiens enragés qui veulent en découdre pour défendre leur foi. Poséidon prend ses deux frères hybrides à part et leur dit « Il faut arrêter ce délire collectif ». Ils appellent leurs congénères et, ainsi aidés de plusieurs dizaines d'hybrides qui les ont rejoints, s'organisent pour séparer les deux groupes. Au bout d'un moment, ils parviennent à créer un cordon protecteur efficace et obligent ceux qui veulent se battre à renoncer. Parallèlement, quelques aérials, qui sont les plus rapides pour se déplacer dans les couloirs, évacuent les blessés. Ils sont emmenés à l'infirmerie où aussitôt Jérémie, le médecin qui avait aidé Alice à mettre au monde Ophélie et qui est de garde ce jour-là, les prend en charge. Il envoie une infirmière avertir les autres adultes du drame qui s'est déroulé dans les vestiaires. Alice, Simon et Francky sont les premiers à accourir, aussi en colère qu'inquiets.
« Tout est rentré dans l'ordre »,
les rassure Hadès.
« Que s'est-il passé ?»
demande Simon.
« Une chamaillerie pour des vieilles histoires, ça aurait pu très mal tourner, mais on a évité le pire. »
Alice sent que l'aîné des Diggers cherche à couvrir ses camarades. Elle demande à Jérémie comment vont les blessés.
« Celui-ci a reçu un coup de tournevis au ventre !»
dit-il. « Raconte-moi qui t'a frappé !» exige Alice sur un ton sans appel en s'adressant aux blessés. « Que s'est-il passé ?» Le jeune garçon raconte dans le détail sa version de l'incident. Alice s'assoit, abasourdie.
« Comment est-ce possible qu'il soit déjà si con ? Ils reproduisent des querelles ancestrales pour des histoires de divinités qui n'ont jamais été vues par personne, mais qui ont été imaginées par des prêtres pour contrôler les plus naïfs. Des enfants de 15 ans sont prêts à s'entre-déchirer pour ça.
Et là, où en est-on ?
S'inquiète Simon. Hermès lui répond :
Aidés des Nautiques et des Diggers, nous avons pu arrêter les plus vindicatifs, et mes frères aériens ont transporté ici les blessés.
Les hybrides semblent être les seuls à réfléchir normalement, pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont ni ancêtres ni religion.
Francky, sentant la tension générale et l'impact négatif que peut avoir cet incident, déclare
« Je crois qu'il ne faut pas étouffer cette affaire. Au contraire, il faut en profiter pour marquer le coup. Oui, il faut marquer le coup. »«
À quoi penses-tu ? »
questionne Simon.
« Je vais organiser ce soir une cérémonie pour remercier les hybrides qui ont permis de mettre fin à ce conflit. Avec peut-être une médaille. » On faisait ça au Club Med, la distribution de médailles en plastique pour récompenser les enfants. Ils adoraient ça. Et on installera peut-être aussi un buffet avec des gâteaux. Le sucre, ça rassure et ça calme.
Et le soir même, dans la salle où se déroulent les fêtes, Francky, après avoir narré l'incident à tous les présents, fait applaudir les jeunes héros Nautix, Diggers et Aerials.
Il fait ensuite monter sur scène le petit Turc et le petit Arménien à l'origine du conflit et leur propose de se serrer la main. Au début, les deux adolescents refusent, mais sous la pression de l'assistance, finissent par consentir à ce geste symbolique sous les applaudissements de la foule. Frankie conclut
« Ainsi, les hybrides ont montré que non seulement ils étaient bien éduqués, mais que spontanément ils avaient envie de venir en aide aux humains. »
Le chef de village, en verve, poursuit avec son accent marseillais typique
« Les hybrides n'étaient pas obligés d'intervenir, et personne ne les a poussés à le faire. Ils en ont eu envie par pure empathie. » Et ils ont non seulement convaincu les petits humains de cesser de se battre, mais ils ont en plus évacué les blessés vers l'infirmerie. Ils ont su coordonner leurs efforts pour être plus efficaces. Voilà ce qui est extraordinaire. Ces jeunes hybrides d'à peine 15 ans ont réussi, sans l'aide du moindre adulte, à s'organiser et à prendre les décisions nécessaires pour sauver d'autres enfants, de surcroît différents d'eux.
Nouveaux applaudissements. Simon se penche vers Alice et lui chuchote
« De quelque chose de mauvais peut sortir quelque chose de bon. Regarde, plus personne n'ose contester l'intérêt d'avoir fait naître des hybrides. »
Puis Frankie annonce que tout le monde va pouvoir boire et manger pour marquer l'événement. Tous se précipitent sur le buffet. Alice et Simon, en retrait, observent l'assistance, adultes et jeunes mélangés, qui se régalent des friandises offertes.
« Plus je vis avec tes hybrides, plus je les sens motivés pour bâtir un monde plus pacifique, »
déclare Simon. « Nos hybrides, » rectifie Alice. Simon la regarde.
« Je n'en reviens pas d'être allé au bout de cette expérience.
Nous avons réussi ensemble, » insiste-t-elle. Il la saisit par la taille et l'embrasse longuement.
« Tu as donné un sens à ma vie, »
dit-il.
Jusque-là, mon objectif était d'éviter les problèmes et de me protéger. Je jouais en défense en esquivant tout ce qui pouvait ressembler à un danger. Mais toi, tu m'as appris à aller de l'avant, à prendre des risques. Grâce à toi, j'ai compris que c'est en sortant de sa zone de confort qu'on vit vraiment.
Et toi, tu m'as appris à faire confiance à quelqu'un, lui répond Alice. Moi qui ai toujours cru que j'irais plus vite toute seule sans m'encombrer de qui que ce soit, tu m'as montré que, bien accompagnée, je pouvais aller plus loin.
Mon objectif de vie est désormais de prendre des risques pour connaître mes limites,
dit-il pensivement. Le mien reste le même, faire évoluer l'humanité pour qu'elle survive à toutes les épreuves à venir. Simon désigne discrètement leur fille Ophélie, qui discutent avec Hermès, Poséidon et Hadès, tout en mangeant des bonbons. Tous les quatre forment un groupe à l'écart des autres.
Je crois que notre fille a déjà intégré les hybrides comme des êtres égaux.
Viens, propose Alice en le tirant par le bras. Les deux parents s'approchent discrètement de leur fille pour écouter la conversation. Les quatre adolescents ont le bras droit tendu devant eux, le poing serré, et forment une sorte de croix.
« 6 »,
dit Hadès.
« 8 »,
dit Hermès.
« 5 », ajoute Poséidon, hésitant. « Et toi, Ophélie, tu en penses quoi ?»«
Allez, je tente le 7. »«
Mais de quoi ils parlent ?»
Ils rouvrent tous simultanément la main. À l'intérieur, des cailloux. Ils les comptent, et c'est Hermès qui annonce
« 5 ». C'est Poséidon qui a gagné.
Il pose un caillou au sol, puis tous recommencent à tendre leurs poings et à énumérer des chiffres à tour de rôle. Simon murmure
« Qu'est-ce que c'est que ce jeu ?»«
Je crois que je sais. C'est un jeu très ancien qui se nomme le jeu des trois cailloux. Chaque participant met 0, 1, 2 ou 3 cailloux dans sa main. Il s'agit de deviner la somme des cailloux de toutes les mains. Celui qui trouve pose un caillou au sol et continue de jouer. Celui qui a gagné 3 fois et s'est donc débarrassé de ses 3 cailloux remporte la partie. C'est simple, mais ça demande beaucoup d'intuition et de psychologie.
Le jeu. Comment n'y ai-je pas pensé avant? C'est la meilleure manière d'intégrer les mentalités différentes et de créer de l'entente entre les élèves, surtout si c'est un jeu aussi simple que celui-ci. Il faut que je réfléchisse à donner plus de place au jeu dans mon enseignement.
Alice et Simon continuent de regarder le petit groupe. Je crois que nous avons beaucoup à apprendre en les observant, dit Alice. En tout cas, Ophélie ne semble avoir aucune gêne à discuter avec eux comme des gens normaux.
Ça t'étonne ?
Eh bien, oui. Même si nous les avons fabriqués, je n'arrive toujours pas à me dire que ce sont vraiment des êtres comme nous.
Parce que nous en sommes les créateurs,
dit Simon.
Il faut peut-être oublier cette étape de leur existence et les voir juste comme des amis de notre fille.
Il a raison. C'est quand même un comble que ce soit moi qui, après m'être battue pour qu'ils existent et soient traités comme des gens normaux, soit étonnée que ma propre fille joue et rie avec eux.
Alors que Poséidon semble avoir remporté la manche en gagnant encore une fois, ils discutent d'un sujet qui paraît les préoccuper. Alice et Simon s'approchent un peu plus près.
Alors ça m'étonnerait, dit Poséidon.
Moi, j'en suis sûre,
dit Ophélie.
Impossible,
dit Poséidon.
Ça semble assez peu probable, insiste Hermès.
Ça dépend quand même beaucoup de ce que vous savez,
tempère Hadès.
Jamais de la vie,
s'exclame Poséidon.
D'ailleurs, il suffirait de le tester pour s'en apercevoir.
Mais de quoi il parle ?
Alors, vous en voulez la preuve ?
Demande Ophélie.
Bien sûr. Montre ! On attend que ça.
Eh bien, la voici.
Ophélie se penche alors vers Poséidon et l'embrasse sur la bouche. Ce geste inattendu fait rire les deux autres qui réclament eux aussi un baiser. Ophélie ne se fait pas prier. Passé l'effet de surprise, Alice songe
la peur ou l'amour. Ces quatre-là, en tout cas, ont l'air d'avoir choisi. Seront-ils capables de transformer l'humanité ?